Je laisse la parole tout de suite au professeur Lazarus.
J'ai droit au titre de professeur.
Bon. Peut-vous les rappeler si vous voulez.
Bref. Bon, mais écoutez, merci de cette invitation. Les propos liminaires, alors je ne sais pas très bien ce que je veux dire liminaire, parce que si l'absence de droit nuit gravement à la santé mentale des personnes étrangères, et si je le prends au premier degré, je me souviens une époque où je m'occupais d'une association que certains d'entre vous connaissent, qui est Migration Santé, et on faisait apparaître qu'en effet, ces situations interminables, tout à fait insécurisantes, et où on n'a pas ses papiers, et où on se sent menacé tout le temps, représente une fragilisation en termes d'un bon équilibre psychique, et indépendamment même du fait que ça peut basculer dans des troubles que les psychiatres considéreraient comme des troubles psychiatriques. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a tout de même et l'idée de personne étrangère, et l'idée derrière personne étrangère, qu'elle soit régulière, pas régulière, de personnes de culture très proche de la nôtre ou de culture très différente. Et puis tout de même la question, donc comment est-ce qu'on se comprend mutuellement, ou surtout comment est-ce qu'on ne se comprend pas mutuellement, avec quelquefois l'impression qu'on n'a rien compris à la personne qui est devant vous. Et il y a des pays avec lesquels intuitivement on se sent presque en empathie, et l'empathie fait qu'on croit qu'on est... Enfin, qu'on se comprend, disons, j'emploie un terme très simple, et dans d'autres cas, on n'y comprend absolument rien, soit que les gens ne parlent pas du tout la langue, et soit qu'en parlant la langue, il y ait des conduites, des signes, ce qui fait qu'à la fin d'un moment de contact, d'une réunion, d'une discussion, d'une consultation, à la limite, on ne sait même pas à la fin de quoi il s'agissait, jusqu'au niveau de la demande, si je peux dire. Quelquefois, c'est très, très troublé. En fait, une fois que je vous ai dit ça, ça ne dit pas grand-chose, si ce n'est que tout de même la question de santé mentale est intéressante. Ça veut dire quoi, santé mentale ? Ou bien, à la française, quand on dit santé publique, santé mentale, santé somatique, santé quelque chose, on imagine de la maladie. Et donc, qui dit santé, dirait maladie mentale. Si... je l'entends d'une manière qui est plutôt celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui est celle de bagarre que, pour ma part, et avec d'autres, on mène depuis des années. Et la santé, c'est pas seulement, évidemment, la médecine. Et la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, et c'est quelque chose qui est d'une autre nature, beaucoup plus vaste. Et, hein, je vous rappelle la définition de la santé... qu'inventent les quelques pays qui s'organisent dans l'ONU après la guerre à partir de 1945, et qui se demandent que veut dire bonne santé. Et que veut dire bonne santé si on met dans la même définition des gens qui sont dans la culture scientifique occidentale, des gens qui sont dans des cultures non scientifiques d'autres pays et d'autres continents. Et la santé, c'est pas seulement la normalité biologique ou la normalité des tests psychologiques ou même psychopathologiques. La santé, ce serait quoi, la santé ? Et on est dans cette espèce de drôle de situation où le XXe siècle, extraordinairement scientiste, au lieu de dire la santé, c'est être à peu près à l'équilibre au milieu de constantes statistiquement définies, va au contraire tout à fait tourner le dos à ce truc-là et va dire que la santé, c'est un état, bon, c'est d'accord, un état d'être. Mais un état d'être, c'est quoi un état d'être ? Ça peut être un état de mal-être, ça peut être un état de malheur, ça peut être un état de bien-être. Et on va dire, sans aller beaucoup plus loin, au fond, que la santé est un état de bien-être. Bon, très bien. Mais il faut lui mettre une gradation. Alors on va dire que c'est un état de complet bien-être. Complet. Alors bon, vous savez ce que c'est que l'état de complet bien-être ? Éventuellement, a posteriori, on peut croire qu'on a été bien. Mais d'abord, au moment présent, on s'attend toujours à avoir des emmerdements. Donc déjà, on n'est pas en état de complet bien-être. Et évidemment, quoi qu'il en soit, la vie en bonne santé ne présage rien de bon, puisque dans tous les cas, ça va s'altérer. Alors, donc, la question du complet bien-être est évidemment très relative, dépendant un petit peu des uns et des autres. Il y a des gens qui ne sont pas bien du tout vus de l'extérieur et qui vous disent « ça va », et des gens pour lesquels apparemment tout va bien, les examens multiples montrent que tout va bien, ils se sentent très malades, donc ce n'est pas si simple que ça. Et on va préciser que c'est un état de bien-être complet, physique, vous comprendrez vaguement de quoi il s'agit, mental, c'est déjà moins clair, certains pensent psychique, mais c'est mental, et social. Et le tout se tient. Et le tout se tient. Donc évidemment, dans la vision très médicale qu'on a dans des pays occidentaux, et pas seulement en France particulièrement, mais un peu dans beaucoup de pays, on imagine que la bonne santé, c'est ne pas être malade, puisque ceux qui sont les indicateurs, les témoins de la bonne santé, c'est en gros les soignants. Et les soignants spécialisés, soignants du corps, soignants de la psychiatrie, les soignants sociaux ne sont pas beaucoup convoqués en général pour savoir ce qu'il en est de la mauvaise santé. Voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'on va appeler la bonne santé mentale ? Alors ensuite, quand on va regarder ces années-ci, et évidemment ce qui concerne les migrants qui sont, si on le prenait derrière les termes de précarité, santé, précarité, qui sont une des catégories des personnes qu'on appelle souvent précaires en France, avec une précarité de gens qui sont installés ou bien de gens qui passent, qu'est-ce que c'est que la bonne ou la mauvaise santé d'une personne précaire, et notamment au point de vue psychique. Est-ce que c'est tout simplement qu'elle ne soit pas psychotique, qu'elle ne soit pas trop maniaco-dépressive, qu'elle ne soit pas trop je ne sais pas quoi, enfin, la nosographie qu'on a inventée au 19e siècle est capable de nommer beaucoup des malaises de la psychiatrie, enfin, qu'on appelle de la psychiatrie, le mot psychiatrie n'existait pas avant le 19e siècle. Est-ce que donc des gens qui sont très précaires, est-ce qu'ils peuvent être en état de complet bien-être physique, mental et social ? Physique, on peut peut-être dire oui, en attendant que les maladies se déclarent, et en général plutôt plus jeunes que chez les autres. Mental, ben, ou bien on cherche les troubles caractérisés. Et bon, quelquefois, il peut y en avoir, pas forcément plus quand il s'agit de psychoses et autres que dans le reste de la population. Par contre, est-ce que quand on est dans tous les emmerdes de l'existence, avec des vraies grosses difficultés, et qu'on se déprime un peu, est-ce que c'est de la maladie, ou bien est-ce que c'est normal ? Et quand on fait les enquêtes en population générale en France, on s'aperçoit qu'il y a une surreprésentation de tonalité dépressive, sans que ce soit une dépression maladie. Et vous savez, on dit qu'il y a 30% de la population française, un peu plus dans les prisons, qui souffrirait de troubles psychiques, mais il y a une surreprésentation de la dépression. Et quand vous êtes dans toutes les difficultés du monde, et si vous êtes déprimé, on ne peut pas appeler ça de la maladie. Au contraire, on pourrait considérer que quand vous êtes dans tous les ennuis, et si vous allez bien bien, en disant tout va très bien, en étant un peu maniaque, au contraire, ce n'est pas très, très signe de bonne santé. Voilà, donc, déjà, des vraies difficultés pour caler ce dont il s'agit. Et pour peu que les difficultés sociales soient fortes, je vous ai parlé rapidement de migration santé, se trouver sans papier, se trouver non reconnu, se trouver menacé, se trouver avec des parents qui sont humiliés devant les enfants, ou que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents, ce n'est pas du tout des facteurs de risque de bonne santé. Notamment, si la bonne santé mentale, c'est une image positive de soi-même, ce n'est pas très, très encourageant. Et vous savez que du côté de la prison, on a un petit peu les mêmes questions. Et lorsque vous êtes mis dans un milieu qui est un milieu destiné à punir, répressif, privation de liberté, peut-être, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vécu comme quelque chose qui est destiné à faire mal. Et comment est-ce qu'on peut aller bien dans sa tête, dans un dispositif qui représente ce qu'on pourrait appeler le facteur de risque, c'est-à-dire des conditions extérieures à soi-même, en l'occurrence, qui sont quelquefois des facteurs un peu plus bons, et qui font qu'on a bien plus de chances que d'autres d'être mal physiquement, d'être mal mentalement. Bon. Voilà, donc... Je voulais juste dire ça pour caler un peu ces questions santé mentale. Alors maintenant, si on regarde les personnes étrangères, alors que dire ? Que dire ? C'est pas si simple. J'ai été regarder rapidement, comme ça, comme je fais quelquefois, en tapant sur Internet « migration santé mentale » ou bien « psychiatrie migration ». Bon, j'ai juste sorti 2-3 trucs que je vous lis rapidement. L'une de je ne sais pas très bien quelle année, une psychologue au centre hospitalier de Montfavet, c'est près d'Avignon. Migration et santé mentale, quelques enjeux politiques et cliniques de la psychiatrie contemporaine. Voilà. Et donc là, on va voir qu'il y a des enjeux derrière ces questions psychiatrie, santé mentale, migrant. Et si j'en lis juste quelques-uns, enjeux politiques et cliniques. Les enjeux politiques sont un carrefour économique, idéologique, qui rendent très difficile la lisibilité du fait clinique quand quelqu'un ne va pas très bien ou quand quelqu'un paraît étrange. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est de l'ordre de la maladie ou pas ? Il y a des enjeux sociaux, la santé des migrants, enfin, ainsi de suite. Je prends juste les mots-clés. Et ensuite, on voit des débats confrontant le savoir psychiatrique, qu'on pourrait appeler occidental, à la santé mentale des migrants. Est-ce que nos outils de lecture sont des bonnes lectures ? Je vous rappelle, enfin, ça me vient à l'esprit, mais une espèce de moquerie qu'on avait il y a bien des années, en ayant fait passer des tests de QI, quotient intellectuel, à des enfants du Sahara, bon, qui étaient plutôt des enfants de familles nomades. Et puis, il y avait très mauvais résultats, donc on disait, ils sont tous bêtes, enfin bref, en allant un peu vite. Et puis, quand on regardait les tests d'un peu plus près, on s'apercevait, par exemple, qu'une partie des tests, c'était un bateau. Alors, il fallait la manière dont le bateau flottait. Enfin, je ne sais plus très bien quel était le détail. Quand on a remplacé le bateau par des chameaux, comme par hasard, leur score s'est amélioré au niveau du quotient intellectuel. C'est-à-dire que nos outils d'observation et de lecture ne sont pas toujours adaptés aux gens qui se présentent devant nous, chose qu'il ne faut jamais oublier, puisqu'on a l'impression, nous, qu'on a un savoir universel, aussi bien sur le fonctionnement psychique que sur, évidemment, des éléments qui sont plus scientifiques. Et bon. Et voilà. Donc, vrai débat donc sur la psychiatrie. Qu'est-ce que signifie notre lecture avec le modèle occidental ? Alors ensuite, je vois la psychiatrie de la migration. Et il y a un mot qui apparaît beaucoup, qui est beaucoup apparu pour les gens les plus âgés parmi nous, qui sont la sinistrose, qu'on a beaucoup évoqué pour les travailleurs et les migrants. Donc un accident de travail, au lieu de se remettre normalement, le mal de rein fait que des années après, ils vont pas bien. Sinistrose. Quand je regarde, en partant de 1908... sur les quelques éléments que j'ai retenus, la sinistrose, ça apparaît dès 1908. C'est-à-dire cette espèce de drôle de manière, au fond, sur un accident relativement ordinaire, souvent des travailleurs manuels, de se mettre à avoir mal, se déprimer, puis il devient invalide, handicapé. Et puis si on remonte, on va voir Bertelier, qui était un gars de Migration Santé, les immigrés en France, problème de sinistrose, le corps suspect, sociologie des maladies mentales, psychothérapie des immigrés portugais. Dans psychiatrie française, on va voir des caractéristiques psychosociales de la population maghrébine transplantée, les perturbations mentales chez les migrants. Là, on arrive, on se rapproche maintenant, et on a même le syndrome méditerranéen, où on a des ainsi de suite. Donc, des approches qui sont des approches assez marqué par des préjugés. Et puis, si je regarde dans Hommes et Migration, en 2009, bien plus récemment, je vois sur l'ensemble d'un article que vous pouvez trouver, tout ça, c'est des articles internet, enfin, qu'on trouve sur Internet, une clinique des migrants longtemps aveugle aux effets psychiques de la violence sur les réfugiés. Donc, c'est tout ce qu'on découvre ces années-ci, et notamment, même pour les soldats américains ou pour des gens exposés à des traumatismes et ensuite à des syndromes post-traumatiques avec tous les débats techniques et cliniques qu'il y a là-dessus. Une reconnaissance des effets psychiques de la violence à travers la catégorie du traumatisme, la critique des dérives possibles d'une approche clinique qui va réduire, la tension entre logique de soins, logique de sélection et de dissuasion, et ça c'est toute la question, peut-être on va en parler, mais des certificats et qui vont se servir pour justifier des maintiens sur le territoire ou d'une non-expulsion, soit de la maladie somatique qui marche assez bien dans certains cas, alors que la maladie psychique n'est quasiment pas reconnue pour droit au séjour, ou bien sur le fait que dans les pays de départ, il n'y aurait pas les soins pour suivre les gens. Ensuite, on va voir violence structurelle de l'accueil et de la souffrance psychique, ce terme de souffrance psychique qui émerge ces années-ci, et qui a émergé à propos, dans nos pays en tout cas, des personnes précaires, et d'ailleurs souvent des soignants qui eux-mêmes, comment dire, ne tiennent pas facilement la route pour s'occuper de situations sans arrêt irrattrapables. Sophistication de l'expertise qui est évincée par des logiques administratives, c'est-à-dire que la logique administrative demandant des catégories fait que l'expert ou l'expert clinique ou soignant pratiquement n'est pas entendu. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont un petit peu le plan, puisqu'on va discuter un peu tout ça. Bon. Alors, juste quelques points que je voulais dire. L'un, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, sauf peut-être les réfugiés sur les conflits guerriers où toutes les familles partent comme elles peuvent, mais en général, les migrants, ceux qui ont choisi de migrer, les jeunes qui ont subi des épreuves souvent pas possibles, ont été choisis dans leur communauté avant de partir parmi les plus costauds. Et il y a des années qu'on voit très bien que le vieillissement, notamment de travailleurs manuels, à très très pauvres niveau socioculturel, ils vieillissent plutôt mieux chez les personnes vieillissantes issues de l'immigration que chez les personnes vieillissantes qui viennent de la société d'accueil et qui étaient ceux le plus bas niveau de la société d'accueil. Tout ça pour dire que souvent, ces gens sont assez forts. Et on se demande comment ils ont pu résister à toute une série de choses. Et avant de voir qu'ils sont d'abord traumatisés, il faut quelquefois regarder aussi comment ils ont été capables de résister à ça. Et avec, dans la résistance, non pas quelque chose qui est, comment dire, dénarcissisant, c'est-à-dire, au fond, j'étais incapable de m'adapter à ma société, à ma vie, à mon environnement, mais au contraire, même si on souffre, même si on a été blessé, on l'est un peu comme des gagnants, comme des vainqueurs, comme des gens qui l'ont voulu. Et évidemment, à ce moment-là, l'histoire est très importante. Et ce qu'ils arrivent comme des perdants, comme des paumés qui ont tout perdu, ils sont encore paumés dans la société d'accueil. Et à ce moment-là, disons, à symptômes égales, à difficultés psychiques égales, réparties à peu près chez tout le monde, bon, selon le contexte, et on ne va sans doute pas vivre tout à fait de la même manière. Autre point, la maladie physique, ça se voit. L'assistance à personne en danger dans le code pénal, ça existe essentiellement, c'est appliqué quand il y a inculpation pour non-assistance. Sur la non-assistance, c'est un risque vital, physique. La non-assistance pour des troubles psychiques, sauf si ça va vers un suicide et si on considère qu'on est co-responsable du suicide ou même inducteur du suicide avec certaines pratiques, comme ça s'est quelquefois passé en prison. Mais en gros, ça ne rentre pas dans l'assistance à personne en danger. On n'a pas la conscience que le grand trouble psychique, sauf quand on connaît les gens et qu'on les voit très suicidaires dans certains cas, ou bien faisant des choses qui menacent leur vie parce qu'ils ont beaucoup perdu la boule, mais on n'a pas le sentiment qu'il y a au fond une gravité comparable dans le trouble psychique par rapport au trouble somatique. Et évidemment, ça va se voir à tous les échelons, soit des conditions d'accueil et du droit à l'accueil, soit des réponses pour soigner, soit de l'évidence dans le nombre de professionnels qui peuvent entrer dans les dispositifs, alors que, et je terminerai juste en vous disant ça, qu'on manque de psychiatres partout en France, ceci étant, la France est dans les pays occidentaux celui où il y a le plus de psychiatres par tête de pipe, et notamment de psychiatres publics. La seule chose, c'est que c'est un dispositif en France où on fait appel à énormément de savoir psychiatrique pour beaucoup d'accompagnement de la vie quotidienne, beaucoup de micro-expertise, et que du coup, on se trouve quelquefois devant des psychiatres qui sont peu disponibles pour des populations qui n'arrivent pas, disons, marquées du sceau de la file active de leurs institutions. Plus, et c'est peut-être dans des questions, on en parlera, j'insiste, je vous l'ai déjà dit, plus une grande incompétence, malgré tout, pour s'approcher, comprendre un certain nombre de gens dont les modes d'expression et le mode d'expression du malaise n'est pas le même, et qui eux-mêmes n'ont pas du tout intégré dans leur culture que quand des choses ne vont pas bien dans la tête, c'est pas seulement la religion, c'est pas seulement un djinn, enfin, ou c'est pas seulement un esprit ou un sorcier, ça peut relever de la médecine. Nous, on est convaincus que ces choses, des troubles psychiques, relèvent de la médecine. Beaucoup des gens qui viennent sont très, très étonnés quand on les emmène vers quelque chose qui serait de l'ordre de la médecine. Mais il n'y a pas que. Parce qu'avant que même beaucoup de nos contemporains et nous-mêmes allions vers le psychologue, psychiatre, demander un coup de main, je ne suis pas ouf, enfin, je ne suis pas fou, c'est les autres qui le sont. Voilà.